Il est ressuscité. Mais où ça? C'est une question que vous pose. Il est ressuscité, il est monté au ciel, nous le savons. Il règne à la droite de Dieu, donc nous savons qu'il est au ciel. Est-il présent sur notre terre? Si la réponse est oui, c'est qu'il vit bien quelque part. Et s'il vit quelque part, il doit vivre dans notre être intérieur. Il est censé être partout, Marc. Il est censé être partout, c'est vrai. Depuis plusieurs années, et dans mes études, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie, à la psychiatrie, et même parfois à la philosophie. Et j'ai pu lire plusieurs ouvrages sur le sujet, extrêmement intéressantes. C'est les choses qu'on peut apprendre dedans, avec des merveilleuses vérités que nous pouvons découvrir dans ces trois disciplines. Mais je dois bien vous avouer qu'il y a certains points qui me laissent un peu plus perplexe et confus. On y parle de l'esprit, de l'âme et du corps. L'âme et le corps constitueraient l'homme extérieur. Et l'esprit constituerait l'homme intérieur. Et comme nous venons de le dire, Christ, s'il vit en nous, vit dans notre être intérieur, vit dans l'homme intérieur. En lisant ce qui était dit de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, je me suis senti progressivement plus confus parce que je ne comprenais pas vraiment tout cela d'un point de vue pratique. L'esprit, l'âme et le corps. Un jour, je me suis senti tellement malheureux à propos de ces vérités que j'ai dit « Seigneur, il me faut mettre cela au clair. Parce que si je ne comprends pas cela, si je ne comprends pas ce qu'est l'être et l'homme intérieur, je ne comprends rien du tout. » Alors, je vais vous demander de vous accrocher pendant une dizaine de minutes, parce qu'on va parler de concepts non pas flous, mais difficilement accessibles. Mais je vous rassure, les 10 minutes qui vont suivre cette première partie seront beaucoup plus pratiques. Mais il faut vous accrocher pendant 10 minutes. Alors, en réfléchissant à tout cela, j'ai appuyé ma tête sur mon bureau et j'ai dit « Seigneur, je veux découvrir ce qu'est ma chair, ce qu'est mon âme et ce qu'est mon esprit. » Alors, pas de problème pour savoir ce qu'était ma chair. On peut la toucher, n'est-ce pas ? Je pouvais aussi imaginer ce qu'était l'âme, en ce qu'elle est l'intelligence, notre capacité à ressentir ou à penser. Mais où est l'esprit? Où est mon esprit? Où est mon homme intérieur? J'étais capable d'individualiser ce qui était physiologique, physique, ce qui était psychique, mais pas ce qui était spirituel en moi. Je n'arrivais pas à trouver ce qu'était mon esprit. Vous pourriez me dire, l'âme et l'esprit, pour moi, ne font qu'un et sont très proches. Et je pourrais peut-être vous écouter, mais je vous couperai assez facilement en disant que la Bible elle-même sépare les deux. L'Écriture dit que la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit, l'intellect et l'homme intérieur. Mais plus j'essayais de comprendre ce qu'était l'âme et ce qu'était l'esprit, plus ma perplexité augmentait. Et vint un jour où je me dis, je vais prendre les choses autrement, je vais utiliser non pas la méthode déductive, c'est-à-dire qualifier l'homme intérieur ou l'esprit par ce qu'il n'est pas, mais je vais utiliser une méthode inductive, le qualifier pour ce qu'il est vraiment, le rechercher pour ce qu'il est vraiment. Je me suis demandé, quelle est la partie de moi-même, et je vous pose la question, quelle est la partie de vous-même la plus intérieure que vous ayez conscience de posséder? Vous avez 3 heures. Non, en fait, la réponse est beaucoup plus simple. Vous savez que je n'aime pas tellement prêcher sur des sujets extrêmement difficiles du point de vue de la compréhension théologique, parce que je pense que Jésus s'adresse à tous avec des messages simples. Donc, dans cette question que je vous repose, il y a la réponse. Quelle est la partie de vous-même la plus intérieure que vous ayez conscience de posséder? Eh bien, la partie la plus profonde, la plus intérieure, de votre être, c'est votre conscience. Je ne vous parle pas de la conscience telle qu'elle est décrite par les philosophes, parce que c'est un concept extrêmement confus et complexe. Je vous parle de votre conscience pratique, celle que vous utilisez tous les jours, celle qui fait que vous avez cet élan vital, celle qui va influencer vos actes, celle qui va influencer vos pensées, cette petite voix, cette force qui est en vous. J'ai décidé de voir ce que la Bible disait de la conscience, parce que j'étais persuadé que ce n'était pas un terme biblique, et peut-être vous le pensez. Essayez vous-même un jour, parce qu'on ne va pas pouvoir en 20 minutes faire cette étude complète, mais essayez par vous-même de faire une étude biblique sur la conscience, et vous verrez qu'il y a plein de passages qui nous parlent de la conscience. Et vous découvrirez alors que la conscience, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. Pour imaginer tout cela, imaginez que Dieu a créé un endroit en vous, avec une fontaine, et qu'il est lui-même capable de remplir cette fontaine d'une eau pure. Bien entendu, d'autres personnes, d'autres entités peuvent remplir cette fontaine d'eau, vous l'imaginez, un peu moins pure, voire complètement crasseuse, voire vaseuse, voire boueuse. Mais Dieu est capable de remplir cette fontaine qu'il a lui-même créée avec de l'eau pure et à laquelle vous pouvez puiser. Cette fontaine, c'est votre conscience. Le Nouveau Testament emploie indifféremment les mots conscience et esprit. D'ailleurs, en 2 Timothée chapitre 1, verset 3, Paul dit « Je sers Dieu avec une conscience pure ». Et il a également dit « L'esprit rend témoignage à notre conscience ». Quand je parle de la conscience, tout le monde sait de quoi je veux parler. Quand je dis « esprit », ce que j'entends par là est moins évident, alors entendons la conscience. Et si notre esprit est le centre à partir duquel nous sommes appelés à vivre, il faut que nous comprenions exactement ce dont il s'agit. Comprenons donc que notre conscience, c'est notre esprit. Alors, quelqu'un, à juste titre, pourrait me dire « Jean-Simon, on ne peut pas être conduit par sa conscience parce que la conscience dira à chacun quelque chose de différent. » J'ai dit un peu plus haut que notre conscience était cette fontaine que Dieu était capable de remplir. Et bien entendu, d'autres personnes sont capables de la remplir. D'autres perversités sont capables de la remplir. D'autres entités, Satan est capable de la remplir, cette fontaine. Alors oui, c'est vrai, la conscience pourra nous dire quelque chose de différent si nous ne nous abreuvons pas à la même eau pure. Si vous grandissez dans un pays bouddhiste, votre conscience vous dira que le bouddhisme est une bonne chose et vous dictera une pensée bouddhiste, une façon de faire, des actions bouddhistes. Si vous êtes élevé dans une famille catholique, votre conscience sera façonnée par la foi catholique. Un catholique n'éprouve aucune réserve quand il s'agenouille devant une image et qu'il honore cette image, qui est le symbole d'un saint, par exemple, parce que sa conscience le lui permet et ne l'accuse pas. Votre conscience assumera toujours le contexte dans lequel vous vivez. Si donc vous grandissez dans une famille où vous êtes constamment exposé à des jurons, à des vols, à des violences, comme mode de vie, vous allez accepter cela comme étant normal. La conscience est façonnée de telle manière qu'aujourd'hui, dans nos écoles, nos enfants peuvent dire à leurs parents « Mais papa, la liberté sexuelle est une chose tout à fait normale ». Imaginons que vous preniez un taxi et le chauffeur est plutôt bavard. « Dans le temps, j'avais un appartement pour ma maîtresse », vous dit-il. « Mais maintenant, c'est terrible, je ne peux plus me le permettre à cause de l'inflation, vous vous rendez compte ? Vraiment, je ne sais pas où on va avec tous ces problèmes économiques. » Et il passe les 10 minutes suivantes à vous raconter ce qu'il fait dans cet appartement. À la fin, n'en pouvant plus, vous le coupez en disant « Écoutez, est-ce que vous croyez que tout le monde est comme vous ?» Il se retourne vers vous et avec une certaine curiosité vous dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je veux dire que quand j'ai épousé ma femme, c'était la première femme que j'ai jamais connue dans l'intimité. Je veux dire que je l'ai connu ainsi le jour de notre mariage. Je n'ai jamais eu d'aventure avec une autre femme. Vous imaginez, malheureusement, la tête que peut avoir ce chauffeur de taxi. Cette tête qui veut dire « Mais de quelle planète tu sors ?» Pour lui, cela était tout à fait normal d'avoir une maîtresse parce que c'est ainsi que sa conscience a été façonnée. Un pasteur raconte « J'ai été moi-même élevé dans une église extrêmement proche de la doctrine et presque trop disciplinaire. Ma conscience a donc été façonnée par cette doctrine-là. Nous ne pouvions pas fumer, bien sûr pas boire, il était interdit d'écouter la radio, on pouvait aller se baigner pourvu qu'on reste tout habillé. Mais puisque cela aurait été plutôt difficile et que c'était un péché de mettre un maillot de bain, nous n'allions jamais nous baigner. On ne nous permettait pas de siffler, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas appris à siffler. J'en suis encore incapable. Et si j'avais essayé de siffler, ma conscience m'aurait accusé parce qu'elle avait été formée ainsi. Vous allez peut-être en rire, mais vous êtes vous aussi peut-être façonné de manière qui n'est pas strictement juste. Vous avez peut-être une conscience calviniste, de sorte que si vous tombez dans le péché, vous savez que vous allez malgré tout être sauvé, puisque vous croyez à la doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Mais si vous êtes arminien, votre conscience vous dira que vous pouvez chuter et être perdu, ayant besoin d'être sauvé à nouveau chaque jour. La Bible dit que le sang de Jésus purifiera notre conscience des œuvres mortes. Un jour, j'ai compris que, de la même manière que les gens du monde ont besoin d'être purifiés de l'accoutumance à la drogue, des abus sexuels et de toute autre sorte de péché, j'avais aussi besoin d'être purifié de ma propre dénomination. Non pas qu'elle est mauvaise, mais que ce n'est pas cette conscience pure que Dieu nous demande d'avoir. Ma conscience n'avait pas été faite pour servir ma dénomination, comme celle d'un autre n'a pas été faite pour le calvinisme ou pour toute autre religion que vous ayez pu avoir ou qu'une personne ait pu avoir. Elle a été faite pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Elle a été créée pour être habitée par une personne et non un concept. Jésus nous parle par notre conscience. Nous avons été créés avec un système de communication intérieure et la conscience est là pour nous parler. D'ailleurs, la conscience nous parle beaucoup plus rapidement que notre intellect. Avant que l'intellect ait compris, la conscience a déjà dit oui ou non. C'est ce que nous appelons parfois l'intuition. Quand nous demandons à Christ de venir dans notre cœur, son esprit devient un avec notre esprit. Il prend la direction, si vous préférez, de notre intuition, de notre conscience. Ainsi, quand nous sommes sur le point de critiquer quelqu'un, vous savez, cette espèce de force qui nous dit « Ah, critique-le, ça va te faire du bien », et que cette conscience, cette intuition, que cet Esprit de Dieu vous parle en disant « Ne le fais pas ». Vous êtes dans cette conversation et votre interlocuteur vous dit « Mais qu'est-ce que tu allais dire sur un tel ?» Et vous répondez « Oh, simplement que c'était vraiment quelqu'un de remarquable. » Et dans votre cœur, vous dites « Merci Seigneur, je ne l'ai pas dit. » Et vous vous sentez bien intérieurement parce que vous avez suivi la voie du Maître. Et la voie du Maître vous parle, elle vous parle par votre intuition, par votre conscience. Juste un aparté, vous savez que c'est traduit différemment dans la Bible, mais les pouvoirs publics à l'époque des premiers chrétiens appelaient les disciples, en tout cas, cette nouvelle façon de vivre instaurée par Jésus. Vous savez comment ils l'appelaient ? Non, ils l'appelaient la voie. La voie. Le problème vient de ce que nous confondons souvent conscience et intellect. Et c'est le danger aussi. Intellect, je vous rappelle, c'est votre capacité à raisonner. Ainsi, quand la conscience dit « Donne 150 euros, nous transmettons l'ordre à notre bureau de l'intellect pour approbation. » Nous réfléchissons à la question avec nos facultés intellectuelles. Et l'intellect va vous dire, oula, attention, tu as déjà fait un don de 150 euros, tu t'es mis un petit peu dans le rouge. D'ailleurs, tu as fait un don à cette personne-là déjà de 150 euros. Rappelle-toi, elle ne les a pas très bien employés. Alors vous décidez de ne rien donner à cette personne et vous éteignez l'esprit par votre intellect. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Et il vit en nous, dans notre homme intérieur. Et il nous aide dans toute notre vie, que ce soit dans nos actes ou même dans nos intellects. Il vit en nous et nous aide dans toute notre vie en nous parlant par notre conscience, cette conscience d'eau pure, éduquée et abreuvée par Dieu. Ainsi, si nous obéissons à sa voix intérieure, nous vivons dans sa volonté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, nous dit Paul dans le chapitre 8 de Romains. Voilà ce que veut dire marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est être conduit par Christ au moyen de notre intuition, de notre conscience elle-même inspirée par Dieu. Cette conscience, pourvu qu'elle ait été formée par l'Esprit et guidée par la vérité. Juan Carlos Ortiz, qui est un pasteur argentin, raconte cette histoire. Je me suis trouvé dans une énorme cathédrale de Lincoln en Angleterre. C'est un édifice magnifique avec une nef qui fait près de 200 mètres de long et les orgues au centre du bâtiment. Par ailleurs, les Anglais savent vraiment faire une belle liturgie. La chorale et les pasteurs étaient tous habillés en longues robes. Et on m'avait demandé de faire une prière pendant le service. Alors je me suis dit, bon sang, cette cathédrale, tout ce cérémonial, il va falloir que je sois au niveau et que j'offre vraiment une belle prière. Quand je me suis levé, j'ai dit, ô Père saint et glorieux, je viens en ta présence ce matin. Et ce pasteur raconte, Dieu m'interrompit. Juan Carlos, tais-toi. Tais-toi. Depuis que tu es debout, nous parlons ensemble, et voilà que maintenant tu me dis « Père saint et glorieux ». Juan Carlos Ortiz dit « Seigneur, écoute, laisse-moi terminer cette prière officielle, puis nous reprendrons notre conversation, mais je ne peux pas décemment, m'arrêter maintenant que j'ai commencé ». Il raconte que Dieu lui dit « Eh bien, continue, parce que je vois bien que tu es dans l'embarras ». Jésus était fatigué du protocole, tout ce protocole du Père céleste, saint et glorieux. Ce protocole vient de l'ancienne alliance. Mais nous sommes maintenant l'épouse de Jésus-Christ. Et jamais vous ne vous imagineriez dire « Ô céleste Émi, je viens en ta présence ». Dieu aspire ardemment à notre amitié, à notre intimité, à notre conscience. Il veut nous asseoir sur ses genoux et que nous l'appelions « Papa ». C'est précisément ce que signifie le mot « Abba » que Jésus lui-même emploie et qu'il nous a laissé. Vous pourriez vous dire, bon sang, il nous raconte une histoire de ce pasteur et il nous dit que Dieu lui a parlé directement. Je veux vous dire que Dieu vous parle directement. Peut-être pas en des mots intelligibles, mais il vous parle par votre conscience éduquée, par la parole et par l'esprit. Prenez par exemple, pas tout de suite, mais peut-être cet après-midi ou demain, on en vient à la partie pratique, donc ceux qui se sont assoupis, vous pouvez vous réveiller. Vous prenez une feuille de papier et vous décidez de dessiner deux traits verticaux, ce qui fait trois colonnes, n'est-ce pas, pour ceux qui sont bons en maths. Vous dessinez un trait horizontal vers le haut de la feuille et au-dessus de ce trait, vous inscrivez « Dieu a dit ». Sur la deuxième, j'ai fait cela. Et ensuite, sur la troisième, résultat. Dieu a dit, j'ai fait, résultat. Ainsi, quand vous prendrez une douche et que vous mouillerez le sol de la salle de bain, je vous avais dit qu'on était dans le pratique, si Dieu vous dit « Prends la serpillière », inscrivez-le dans la première colonne. Dieu au travers de votre conscience, éduqué. Prends la serpillière, puis faites-le et marquez-le dans la deuxième colonne, et dans la troisième, vous pourrez certainement inscrire « joie et paix ». Si Dieu vous dit « accroche ces manteaux qui traînent là », écrivez-le, puis marquez « je les ai accrochés » et sous la rubrique « résultat », probablement que vous pourriez inscrire « joie et paix ». Puis, à la colonne « Dieu a dit », écrivez « reviens embrasser ta femme ». Dans la deuxième colonne, « je ne l'ai pas fait ». Résultat, peut-être aucun résultat. Dieu a dit « ne dis pas cela de ton frère ». Oups, je l'ai dit. Résultat, malaise. Ne dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Vous savez bien que le Seigneur vous parle aussi. Le problème, c'est que dans notre système religieux, on nous a enseigné que la seule manière dont Dieu nous parle, c'est dans la Bible. Et c'est vrai, il nous parle au travers de la Bible. Mais lorsque vous lisez la Bible, elle est truffée d'histoires où Dieu parle directement à son peuple ou à des individualités. Elle contient toutes sortes de récits où Dieu parle à des hommes et à des femmes et elle nous dit qu'il nous parlera aussi. Bien sûr, prenons garde que ce que nous faisons passer pour une parole de Dieu au travers de notre conscience ne soit pas le fruit de notre intellect. La conscience, l'être intérieur, la parole de Dieu, l'esprit sera toujours au-dessus de nos intellects. Et il n'y aura de toute façon pas de contradiction entre ce que l'esprit vous insuffle et ce que la parole de Dieu dit. Néanmoins, quand l'esprit vous dit de nettoyer la salle de bain, vous dites « Où est-il écrit dans la Bible qu'il faut que je nettoie la salle de bain ?» Vous ne trouverez pas de verset là-dessus. Ou quand l'esprit vous dit de donner 100 euros à quelqu'un, vous répondez « La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. » Si vous êtes tout seul, sans téléphone à portée de la main et qu'il vous faut prendre une décision, faites ce que Dieu vous dit au travers de votre conscience éduquée. Mais permettez-moi une recommandation qui est peut-être un conseil encore plus judicieux. Mettez en commun votre conscience avec les enfants que Dieu a choisis aussi. Vous n'êtes pas indépendant. Vous appartenez à une famille. Nous appartenons à une même famille, à un même esprit, à une même conscience. Vous appartenez à une famille de croyants. Si vous pensez que le Seigneur est en train de vous dire de vendre votre maison et d'en donner le produit, pour un ministère chrétien, le même Christ qui est dans votre frère ou dans votre sœur leur dira la même chose. Alors, demandez leur confirmation et sondez les Écritures. C'est tout simplement une question de sagesse, une question également de sécurité, que de vérifier auprès de ceux avec lesquels vous êtes en communion et qui vivent en se laissant conduire par ce même esprit. J'en termine. Je n'essaye pas, en fait, de vous donner une philosophie ou une méthode. Je voudrais simplement vous dire que je pense que c'est important de comprendre ça parce que Dieu vit, le Christ vit dans notre être intérieur. Et que pour moi, c'est ça la vie. Il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et c'est vrai, il vit dans les cieux. Mais il doit vivre dans notre être intérieur aussi. Il se peut que vous trouviez tout plein de choses à dire à ce que je viens de vous annoncer. Et moi-même, j'aurai des commentaires sur les choses que je viens de vous dire. Le temps nous manque. J'espère que ça a pu vous permettre de découvrir quelque chose et surtout d'améliorer votre relation avec Dieu dans votre intimité et dans votre conscience. Nous sommes tous humains. Aucun d'entre nous ne marche parfaitement selon l'esprit. Mais accueillez le cœur de ce message et commencez à entendre la voix de l'esprit par vous-même. On fera tous des erreurs. Mais vous allez aussi de plus en plus apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, selon que Jésus vous conduit par l'Esprit qui est en vous. Amen.